bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin.
Je songe à cette armée de fuyards, aux appétits de dictature, que reverront peut-être au pouvoir dans cet oublieux pays ceux qui survivront à ce temps d'algèbre damnée.
La guerre a bien changé. Les ceintures d'explosifs ont remplacé les baïonnettes, les salles de spectacle se sont substituées aux tranchées, le champ de bataille s'est étendu à la ville entière et aucun drapeau blanc ne nous assure la suspension des hostilités. Mais la résistance, elle, redouble de vigueur. Elle prend elle aussi des formes nouvelles et n'est pas prête de plier le genou. Qui dit guerre, dit résistance. Alors aujourd'hui, résistons, mais en vert, s'il vous plaît. Les Nouveaux Chemins croient aux vertus de la poésie grâce à Antoine Ravon, Lucie Tardy, Colomba Grossi, Marianne Chassor. Et je crois que j'ai dit tout le monde, avec Mylia Portis-Guérin cette semaine à la réalisation, Jacques Hubert à la prise de son, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, celle-là je ne suis pas prête de l'oublier, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Des poèmes aussi, des poèmes de pensée, ceux d'Anna Arendt, paru aux éditions Payot sous le titre « Heureux, celui qui n'a pas de patrie ».
Rendez-vous à 10h51. Qu'est-ce qu'une guerre ? Troisième temps. Après Hobbes et Clausewitz, lundi, Carl Schmitt, hier, et le droit à l'épreuve du terrorisme, ça ce sera demain, jeudi. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Laure Michel, maître de conférence en littérature française du XXe siècle à l'université Paris-Sorbonne, qui vient évoquer pour vous les vers fragmentés et résistants des feuillets d'hypnose de René Char. Bonjour à vous Laure Michel.
Bonjour.
Dimanche soir, alors que les Allemands ont saboté tous les émetteurs, la radiodiffusion française libérée lance sur des antennes de fortune son premier indicatif.
Ici, radiodiffusion de la nation française.
Mardi 22 août, 10 journaux sortent des imprimeries. Malgré les fusillades, malgré les Allemands, les Parisiens s'arrachent ces feuilles qui leur apportent des informations enfin libres. Voici Albert Camus, déjà connu comme écrivain, qu'on découvre rédacteur en chef de Combat. Il vient lire son premier éditorial.
Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire sans émotion. Cette joie bouleversée qu'on commence à lire sur le visage des Parisiens est aussi et plus encore peut-être la nôtre. Mais la tâche des hommes de la résistance n'est pas terminée. Il y a eu le temps de l'épreuve et nous en voyons la fin. Il nous est facile de donner son temps à la joie. Elle prend dans nos cœurs la place que pendant 5 années y a tenu l'espérance. Là aussi nous serons fidèles. Mais le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun. La tâche qui nous attend est d'un tel ordre et d'une telle grandeur qu'elle nous contraint de faire taire le cri de notre joie pour réfléchir aux destinées de ce pays pour lequel nous nous sommes tant battus.
En novembre 1940, la police spéciale française est venue perquisitionner chez moi. On me croyait communiste, je n'avais été qu'un tout petit moment surréaliste. Je n'avais plus qu'à gagner la montagne et opter pour le combat auquel ma raison et mon imagination se préparaient. Ce que je fis sans regret, l'Angleterre ne me tentait pas.
« L'Angleterre ne me tentait pas », dit René Char, racontant la perquisition de son domicile en 1940, Laure Michel, tandis que Camus, lui, alors, au lendemain de la libération, fait un appel redoublé à la résistance et se fait journaliste. C'était l'édito du journal Combat, son premier édito. René Char, lui, va écrire des vers. Alors, quelle force pour la poésie en temps de résistance? Est-ce que les vers paraissent bien fragiles dans ces circonstances, Laure Michel?
Oui, tout à fait. Et c'était intéressant d'entendre à la fois le texte de Camus et à la fin de la guerre, et puis la voix de René Char qui raconte la perquisition de son domicile en 1940, parce qu'on a là tout un empan du combat de résistance. C'est en effet après sa démobilisation en 40 que Char songe à entrer en résistance, et en particulier à cause de cette... L'une des causes est cette méfiance, cette suspicion des services policiers de l'époque, qui décide Char à entrer en résistance progressivement. Il gagne l'armée secrète en 1942. Il devient le chef d'une section atterrissage parachutage à partir de 1942-43 pour les Basses Alpes. Et cette entrée en résistance qui devrait s'achever avec la fin du conflit, en réalité, pour René Char, doit être poursuivie au-delà de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien ce que dit Camus, pour des raisons qui sont peut-être un peu complexes, mais qui peuvent se résumer dans le fait que pour Char, le mal ne disparaît pas. Le mal qu'il a vu à l'œuvre, dans ce qu'il appelle l'hypnose nazie, qui est un mal envahissant, qui est celui de la simplification, qui est celui des vérités qui autorisent à tuer, comme il dit, à ses yeux, ce mal-là se retrouve dans les idéologies qu'il appelle totalitaires au lendemain de la guerre, et qui sont en particulier le stalinisme, qui à ses yeux suppose la poursuite du combat. Et c'est l'un des points communs qu'il a avec Camus, qui est son proche, son grand ami, et détermineront la poursuite du combat.
Est-ce que ça veut dire que pour René Char, c'est l'acte même d'écrire le fait d'être poète qui est par lui-même une forme de résistance?
Alors, il y a un rapport à l'écriture tout à fait intéressant et tout à fait spécifique à Char. Char, à la différence de ce qu'on appelait les poètes de la résistance, par exemple, ne pense pas que l'écriture poétique puisse être une arme. L'écriture peut. L'écriture ne peut pas grand-chose dans la lutte armée. Et aux yeux de Char, il faut donner la priorité au combat armé. Continuer de publier pendant la guerre, ce serait, selon lui, détourner la masse de ses lecteurs d'une tâche bien plus urgente, qui est celle de prendre les armes. Et donc il y a une idée, une conception de l'écriture qui la voit comme quelque chose d'assez fragile. L'écriture poétique, et il faut se rappeler cela quand on a une image de Char comme poète, grandiloquent, qui est une caricature qu'on diffuse parfois. Char pense qu'il y a une grande fragilité, une véritable humilité que doit avoir l'écriture poétique, parce qu'en temps de guerre, il y a plus urgent à faire que de publier. Ce qui ne veut pas dire qu'il renonce à écrire.
Ça, Au contraire, parce que la vue et l'hypnose ont été rédigées en 1943, je crois.
Absolument, 43-44. Alors, pas exactement les feuillets d'hypnose, en fait c'est le carnet d'hypnose, comme il l'a appelé, qui a servi après de matière pour la composition de feuillets d'hypnose, qui se fait juste après la guerre, juste après la période du maquis, fin 44, début 45. Et ce carnet d'hypnose, dont on a des petits fragments conservés dans les bibliothèques, par exemple à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, qui a un fonds René Char important, eh bien ce carnet d'hypnose mêle des notes tout à fait quotidiennes et triviales, sur des calculs de sommes que l'on doit, de chaussures à chercher, etc. Et puis, il y a aussi ces aphorismes, ces notes poétiques, ces proses un peu développées, imagées, qui montrent bien l'intrication entre la vie quotidienne, la vie du combattant au maquis et le poète. Ce qui est en fait... étonnant, c'est que Char éprouve, malgré la fragilité des mots, éprouve le besoin de poursuivre l'écriture poétique.
Il écrit, et ça donne lieu à des scènes très surprenantes qu'on trouve dans les vers fragmentés, les espèces d'aphorismes de Feuillet d'Hypnose, dans cette maison inhabitée dans laquelle il se cache, et ce qui donne lieu à des descriptions de fusillades auxquelles il assiste. On l'imagine caché, tapis derrière un rideau ou un volet. Et cette écriture qui est comme une façon de maintenir un fil continu alors que tout se disloque à l'extérieur.
Oui, c'est vrai que le, alors vous faites allusion à un feuillet très beau et très célèbre qui raconte donc la l'arrivée des Allemands à Serrest. Alors Serrest, c'est un village des Basses-Alpes, qui sont les Alpes de Haute-Provence aujourd'hui, et qui était le PC de Char. C'est de là qu'il a organisé son travail de combattant et de chef, donc d'un groupe d'hommes. Hein, il était chef de maquis. Ce jour-là, l'armée allemande envahit Serrest pour à la recherche de chars, justement, commence par torturer certains habitants. Et à ce moment-là, c'est ce que raconte Char, l'ensemble des habitants du village sont venus en masse, lentement et silencieusement, comme pour contrer l'hypnose nazie elle-même, faisant eux-mêmes comme un geste d'hypnose de l'assaillant, sont venus paralyser les recherches et les exactions des Allemands, pendant que Char lui-même était caché derrière la fenêtre d'une maison.
Alors on va entendre ce texte où Char, caché derrière, dans sa maison inhabitée, va décrire la description du siège du village par les SS, interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin.
La maison inhabitée où je me réfugiais autorisait à toute extrémité une résistance armée efficace. Je pouvais suivre de la fenêtre, derrière les rideaux jaunis, les allées et venues nerveuses des occupants. Pas un des miens n'était présent au village. Cette pensée me rassura. À quelques kilomètres de là, ils suivraient mes consignes et resteraient tapis. Des coups me parvenaient, ponctués d'injures. Les SS avaient surpris un jeune maçon qui revenait de relever des collets. Sa frayeur le désigna à leur torture. Une voix se penchait, hurlante, sur le corps tuméfié. « Où est-il ? Conduis-nous !» suivi de silence, et coups de pied et coups de crosse de pleuvoir. Une rage insensée s'empara de moi, chassa mon angoisse. Mes mains communiquaient à mon arme leur sueur crispée, exaltaient sa puissance contenue. Je calculais que le malheureux se tairait encore 5 minutes, puis, fatalement, il parlerait. J'eus honte de souhaiter sa mort avant cette échéance. Alors, apparut jaillissant de chaque rue la marée des femmes, des enfants, des vieillards, se rendant au lieu de rassemblement, suivant un plan concerté. Ils se hâtaient sans hâte, ruisselant littéralement sur les SS, les paralysant en toute bonne foi. Le maçon fut laissé pour mort. Furieuse, la patrouille se fraya un chemin à travers la foule et porta ses pas plus loin. Avec une prudence infinie, maintenant des yeux anxieux et bons regardaient dans ma direction, passaient comme un jet de lampe sur ma fenêtre. Je me découvris à moitié et un sourire se détacha de ma pâleur. Je tenais à ces êtres par 1000 fils confiants dont pas un ne devait se rompre. J'ai aimé farouchement mes semblables cette journée-là, bien au-delà du sacrifice.
Alors Michel, ici, la tonalité de ce texte est plus celle d'un journal intime que d'un poète qui va essayer de composer, de trouver les termes appropriés pour décrire la situation.
En effet, c'est un texte qui est destiné à soi, et puis qui, lors de sa reprise en recueil, bien sûr, est destiné au lecteur de l'immédiate après-guerre. Mais il a comme fonction à la fois de rendre hommage à ses habitants, pour les lecteurs cette fois-ci de l'immédiate après-guerre, et je pense au moment de son écriture, il a aussi pour fonction de situer la place du poète au sein de cette communauté se forme autour du chef de maquis. Il est lié, c'est très beau cette phrase, il est lié à ces êtres par 1000 fils confiants. Et là, on a bien l'image de la communauté qui se rassemble, la communauté des combattants, qui est aussi ce qu'ils cherchent à créer et ce dont rendent compte les feuillets et ce que fabrique aussi l'écriture poétique elle-même. Et à la fin de ce feuillet, il y a aussi cette belle phrase « J'ai aimé farouchement mes semblables cette journée-là, bien au-delà du sacrifice ». C'est intéressant parce que il y a par ailleurs dans Feuillet d'hypnose et beaucoup après-guerre un discours extrêmement négatif. C'est un grand pessimiste, Char, sur la sur la nature humaine. Il est question de de ne pas s'attarder sur les lieux de vos rapports. Et quand il parle de des hommes qu'il a rencontrés, de leur subjectivité d'arlequin, de leurs vices et de leurs défauts. Et là, on a vraiment un moment à part, un moment qui est une sorte de salut, un moment où sont sauvés. Ces êtres humains pour lesquels il agit, et c'est là l'autre idée importante, c'est que c'est bien pour la communauté que Char s'engage, et c'est ce que dit cette notion de sacrifice à la fin, bien au-delà du sacrifice. Il y a dans Feuillet d'hypnose tout un fil directeur sur cette question du sacrifice du poète, et sur la nécessité de penser ce sacrifice fondateur d'une communauté et d'un temps nouveau qui aurait renversé l'hypnose nazie, sacrifice fondateur qui est celui du poète, et sur lequel réfléchit Char à chaque fois qu'il parle de Roger Bernard. Roger Bernard, c'était un poète. C'est non seulement un compagnon de Maquis, un jeune compagnon de Maquis que Char aimait beaucoup, mais c'est aussi, il écrivait des vers qui ont été publiés, d'ailleurs dans un recueil intitulé « Ma fin noire déjà », Char contribue à la publication de ce volume. Reparu récemment d'ailleurs, et Roger Bernard incarne aux yeux de Char la figure du poète sacrifié, puisque Roger Bernard va se trouver assassiné par les Allemands à un moment où il revenait vers le village de ses restes. Et donc il y a tout cela dans ce texte-là que nous avons entendu.
Avec cette phrase aussi qui semble bien définir le rapport du poète à la communauté qu'il appelle de ses voeux, qu'il constate, il dit, alors que avec une prudence infinie, les yeux anxieux et bons regardaient dans ma direction et passaient comme un jet de lampe sur ma fenêtre, je me découvris à moitié, dit-il, et un sourire se détacha de ma pâleur. Comme si le regard de cette communauté qui vient chasser les SS de manière complètement inattendue, le fondait lui-même en tant que, peut-être poète, mais surtout homme caché, reclus, c'est-à-dire exclu de cette communauté qu'il regarde.
Oui, c'est vrai, à la fois aidé par la communauté, à part, il est le chef en un sens positif. Il est, c'est ce qui se révèle à lui pendant ce combat au Maquis. Il se rend compte qu'il a une véritable autorité naturelle sur un groupe d'hommes qui lui était très attaché. Il prend un peu toute sa dimension d'homme d'action lors de ce combat de l'ombre, ce qu'il ignorait auparavant. Et c'est en effet tout un groupe qu'il doit entraîner dans ce combat au Maquis, et Char est Char est à la fois celui qui travaille le groupe. Il y a des feuillets aussi très intéressants qui racontent combien il essaye de les travailler comme une pâte un petit peu, de les rendre meilleurs, il est celui qui organise et fait être ces hommes-là autour de lui.
Une fois la guerre terminée, ces feuillets pourront être publiés et René Char va ouvrir ce recueil avec un texte qui présente l'ensemble de ces vers et de ces phrases comme étant un acte de résistance. Écoutez ce texte interprété par René Char lui-même.
Ces notes n'empruntent rien à l'amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu d'herbe sèche eût tout aussi bien été leur éditeur. La vue du sang supplicié en a fait une fois perdre le fil, a réduit à néant leur importance. Elles furent écrites dans la tension, la colère, la peur, l'émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l'illusion de l'avenir, l'amitié, l'amour. C'est dire combien elles sont affectées par l'événement, ensuite plus souvent survolées que relues.
Ce carnet pourrait n'avoir appartenu à personne, tant le sens de la vie d'un homme est sous-jacent à ses pérégrinations et difficilement séparable d'un mimétisme parfois hallucinant. De telles tendances furent néanmoins combattues. Ces notes marque la résistance d'un humanisme conscient de ses devoirs, discret sur ses vertus, désirant réserver l'inaccessible champ libre à la fantaisie de ses soleils, et décidé à payer le prix pour cela.
Être stoïque, c'est se figer avec les beaux yeux de Narcisse. Nous avons recensé toute la douleur qu'éventuellement le bourreau pouvait prélever sur chaque pouce de notre corps. Puis, le cœur serré, nous sommes allés et avons fait face. Nous n'appartenons à personne sinon au point d'or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous qui tient éveillé le courage et le silence. L'effort du poète vise à transformer vieux ennemis en loyaux adversaires, tout lendemain fertile est en fonction de la réussite de ce projet, surtout là où s'élance, s'enlace, décline, est décimée toute la gamme des voiles où le vent des continents rend son cœur au vent des abîmes. Cette guerre se prolongera au-delà des armistices platoniques. L'implantation des concepts politiques se poursuivra contradictoirement dans les convulsions et sous le couvert d'une hypocrisie sûre de ses droits. Ne souriez pas, écartez le scepticisme et la résignation et préparez votre âme mortelle en vue d'affronter intramuros des démons glacés, analogues au génie microbien.
Dès ces premiers paragraphes, ces premiers vers qui ouvrent les feuilles d'hypnose, le programme est lancé, si j'ose dire, car il y a un appel clair. L'effort du poète, dit-il, vise à transformer vieux ennemis en loyaux adversaires. Vaste, vaste projet qui, pour le coup, semble peut-être à la hauteur du poète, mais relevé presque davantage de l'utopie, de l'idéal que de la réalité.
Alors oui, on voit bien ici toute la fonction qui peut être celle de l'écriture de ces feuillets, de cette écriture de notes. Il s'agit de rendre possible l'action. Et pour cela, dit-il, de transformer l'évidence. Et il va falloir, dans cette situation d'hypnose, de crue, dans cette situation où tout est déréglé, où les repères habituels, par exemple les repères de temps, sont totalement déstabilisés, désorganisés, même renversés. Les aiguilles s'entre-dévorent hein, sur le cadran des aiguilles, selon une formule des feuillets. Dans ce temps-là, où les mots eux-mêmes n'ont plus de pouvoir de discrimination, c'est ce que reproche Char à l'époque dans laquelle, dans cette époque spéciale dans laquelle il se trouve, c'est que on ne sait plus comment appeler les choses. On appelle bien une ignominie dirigée, comme il dit. On appelle bien le mal. On appelle deuil un mariage. On appelle maladie, ce qui est au contraire un remède. Et donc dans cette époque d'inversion, de confusion, où les mots ne sont plus garantis par rien ni par personne, où l'on peut se payer de mots, voilà, se payer de mots, Char oppose l'écriture brève, l'écriture sobre des feuillets dans laquelle on ne se paie pas de mots. On connaît le poids des mots et leur prix. Et connaître le poids des mots, ce sera une manière de rendre possible l'action, de rendre possible le combat, délimiter à la fois un adversaire et de délimiter un temps pour l'action. Et c'est bien ce que disent ces tout premiers feuillets qui, comme vous le dites, définissent un programme, c'est-à-dire définissent pour l'homme d'action un temps mesuré, pas au-delà, dit-il, au-delà est fumé, autant que se peut, c'est le tout premier feuillet, enseigne à devenir efficace pour le but à atteindre, mais pas au-delà. Au-delà est fumé. Et donc on a ce...
Qu'est-ce que c'est au-delà est fumé? C'est... Il refuse de croire à une forme de transcendance?
D'une part, en effet, il y a une forme de... Voilà, d'ironie envers une valeur ou une puissance transcendante qui fonderait l'action. Ce n'est pas cela. Et c'est aussi une manière d'être lucide sur l'action elle-même. L'action, c'est bien ce dont les conséquences nous échappent. Et donc, ce qu'il définit pour son combat de résistant, c'est un un temps limité et mesuré, celui de l'homme d'action, celui qui va d'un avenir proche vers un autre avenir proche. C'est ce que Paul Ricoeur appelle le temps historique, qui est un segment de l'histoire du monde limité et qui a besoin de cette limitation pour rendre possible l'action. Et ce temps-là, qui est un temps proche et qui est une des nécessités de l'écriture de Feuillet d'hypnose, qui est d'ouvrir et de définir un lendemain, puisqu'on est dans une période où le ciel recrue, comme il dit, envahit l'époque et ne rend pas possible la vision d'un après, eh bien Feuillet d'hypnose s'attache à nommer ce lendemain, cet avenir proche, pour le rendre possible. Mais en même temps, et c'est le deuxième point qui me semble très important dans ce qui vient d'être lu, c'est que cet avenir proche n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas de se limiter à un engagement dans l'action immédiate du combattant. Il faut aussi définir, nommer cette lampe inconnue de nous. Ce point d'or, le point d'or de cette lampe inconnue de nous, c'est le feuillet 5, inaccessible à nous, qui tient éveillé le courage et le silence. Cet inaccessible, cet inconnu, c'est un axe majeur de Feuillet d'hypnose, et c'est ce qui, aux yeux de Char, est nécessaire pour que l'oppression dans laquelle il se trouve ait une chance d'être retournée en avenir, est une chance d'être retournée en salut, en un sens bien sûr non chrétien, est une chance d'être tournée vers l'avant. Voilà. Il est nécessaire qu'il y ait aussi un inconnu en avant de soi.
Ne souriez pas, nous dit Char dans ses feuillets au tout début, et pourtant le stoïcisme ne sera pas la solution. C'est dit très clairement, être stoïque, c'est se figer avec les beaux yeux de Narcisse, dénonciation absolue de cette attitude qui consisterait à serrer les dents et accepter ce qui se passe.
Absolument. Et s'il est vrai que la figure de Marc Aurèle hante les feuillets d'hypnose, en même temps, Char pense que s'il est nécessaire de s'appliquer à durer, s'il y a quand même bien une endurance qui est une des valeurs et une des attitudes que requiert la lutte, le combat, on ne peut s'arrêter à cela. Et il faut croire en un changement possible, c'est-à-dire que ces notes ne sont le contraire de maximes universelles qui diraient la vérité de l'homme de tout temps. Il faut au contraire croire que l'homme peut changer, il faut croire que les défauts qui sont nommés dans ces feuillets sont des défauts circonstanciels, des défauts que l'on peut inverser en qualité. Sinon, l'action est tout de suite découragée. Et c'est pourquoi le stoïcisme n'est pas un recours pour Char en cette période.
Il y a cette volonté aussi très forte de redonner, de redécouper presque le temps, la durée qui change du tout au tout, dit Char dans de nombreux fragments. Ceux-ci ont donné jadis un nom divers tranches de la un nom aux diverses tranches de la durée. Ceci était un jour, cela un mois, cette église vide une année. Nous voici abordant la seconde où la mort est la plus violente et la vie la mieux définie. Finalement, aux unités temporelles qui nous sont habituelles, se sont substituées la seule distinction qui vaille, celle entre la vie et la mort.
Tout à fait. Et l'un de ses jeunes camarades, Roger Chaudon, dit dans un feuillet qui suit juste celui que vous venez de lire, « C'est au fond ce qui me tranquillise, que l'ordre de la vie et de la mort ne puisse être inversé. » Mais cela dit bien à quel point tout le reste est bouleversé, à quel point les repères ont explosé, à quel point les aiguilles s'entre-dévorent sur le cadran dans cette période-là. En effet. Et c'est ce que je disais, c'est toute l'écriture des feuillets vise à remettre un ordre possible à la fois pour l'action et pour le renversement de la situation dans laquelle il se trouve.
Les enfants s'ennuient le dimanche. Passereau propose une semaine de 24 jours pour dépecer le dimanche, soit une heure de dimanche s'ajoutant à chaque jour, de préférence l'heure des repas, puisqu'il n'y a plus de pain sec, mais qu'on ne lui parle plus du dimanche.
enfants s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient en knickerbocker ou en robe blanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient, que ce soit promenade ou tartine. Pâtissier, pas plus que les bois n'auront de succès. Gamins et gamines sont plus tristes que maman ne croit. Vienne, vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin. Y'a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins. Vienne, vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h31 et c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à la guerre. Et c'est de résistance que nous parlons, de résistance par les vers de René Char dans les Feuillets d'hypnose, grâce à Laure Michel, auteur d'un ouvrage intitulé René Char, le poème et l'histoire, paru aux éditions Honoré Champion.
Vienne, vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit.
La contre-terreur, c'est ce vallon que peu à peu le brouillard comble. C'est le fugace bruissement des feuilles comme un essaim de fusée engourdie. C'est cette pesanteur bien répartie. C'est cette circulation ouatée d'animaux et d'insectes tirant mille traits sur l'écorce tendre de la nuit. C'est cette graine de luzerne sur la fossette d'un visage caressé. C'est cet incendie de la lune qui ne sera jamais un incendie. C'est un lendemain minuscule dont les intentions nous sont inconnues. C'est un buste aux couleurs vives qui s'est plié en souriant. C'est l'ombre à quelques pas d'un bref compagnon accroupi qui pense que le cuir de sa ceinture va céder. Qu'importe alors l'heure et le lieu où le diable nous a fixé rendez-vous. Il y a de très troublant, Laure Michel, cet entrelacement entre une dimension enfantine, hein, les vers que j'ai lus, les enfants s'ennuient le dimanche, avec la chanson de Charles Trenet qui reprenait mot pour mot cette formule, et la référence à la fossette sur un visage caressé dans ce texte que j'ai lu qui cette fois-ci porte sur la contre-terreur, comme si l'entremêlement des registres était la seule façon de parvenir à tracer le chemin vers cet avenir que vous évoquiez.
Oui, tout à fait. On se demandait tout à l'heure pourquoi commencer l'émission. Pourquoi écrire ? Pourquoi écrire en temps de guerre ? Pourquoi écrire quand on a pris les armes ? J'avais dit que Char ne pensait pas que l'écriture par elle-même pouvait mobiliser ses concitoyens, à la différence des poètes de la Résistance, d'Aragon ou d'Éluard, et qu'il ne pensait pas que l'écriture était en elle-même une arme. En revanche, elle a bien une valeur et une fonction, et c'est ce que montre cet admirable feuillet que vous venez de lire, le feuillet 141 sur la contre-terreur. En effet, l'écriture poétique, elle dit, elle nomme et elle rend attentif à tout ce qui va contre la terreur de ce temps d'hypnose nazie. Et cette contre-terreur, elle associe, en effet, elle forme une sorte de constellation qui mêle l'enfance, la nature et l'attention aux détails. Il y a dans ce feuillet-là des des images très très belles qui sont comme des gros plans sur le détail des compagnons, le détail d'éléments naturels qui montrent la proximité avec la nature dans laquelle vivent les maquisards et puis la proximité qu'il y a entre eux. Et je trouve ces images magnifiques, cette graine de luzerne sur la fossette d'un visage caressé, ou même ce compagnon accroupi qui pense que le cuir de sa ceinture va céder. Là, on est à la fois dans de l'anecdotique, en fait, dans la note qui rapporte et qui nous plonge dans l'intime d'une situation de combat immédiat. Et puis en même temps, ça va bien au-delà de ça. C'est sur tous ces éléments-là que le combat s'appuie, que la résistance peut trouver sa force et sa valeur. C'est sur une attention aux détails et sur concret et naturel, par opposition à tout ce qui justement fait terreur, à savoir l'abstraction de l'idéologie, l'abstraction de ces vérités qui autorisent à tuer. C'est si on est dans cette situation là, c'est à cause d'une perte de relation avec le concret, avec le détail, avec la nature. Et c'est sur ce point que Char retrouvera Camus après la guerre. C'est exactement
ce que j'allais vous dire. C'est dans ce texte-là, oui. C'est très clair. Hein, c'est l'espèce d'immanence camusienne qui en appelle à un regard attentif. Finalement, au quotidien, les scènes que décrit que Char dans ce feuillet-là sont des scènes extrêmement quotidiennes. Il en fait le lieu de cette contre-terreur.
Exactement, c'est du quotidien, c'est du détail, c'est un regard qui donne son attention, donc son prix, donc sa valeur à tout ce qui est vivant, en fait, au vivant. Et c'est aussi, outre la nature, c'est aussi l'enfance. Il y a une valeur de l'enfance et la Char est aussi héritier d'une tradition de la poésie moderne qui, depuis Rimbaud, fait de l'enfance une vertu poétique, notamment du regard de l'enfance. L'enfance, c'est ce qui permet de résister à la terreur à cause de l'imagination. Il y a un fil qui relie à la fois la nature, le sensible, l'imagination et les vertus de ces combattants qui se retrouvent autour de Char au maquis. Une sorte de morale ou de règle de vie qui se fonde sur une attention au concret et sur une attention au sens. Et c'est bien ce qu'on voit dans la qualité de ces détails, de cette image, cette graine de luzerne sur la fossette d'un visage caressé.
Mais là, et pourquoi cette attention aux enfants, enfin cette réflexion sur les enfants qui s'ennuient le dimanche? On disait que c'était un temps disloqué, un temps du combat et de la résistance, qui laisse généralement peu de place et à l'enfance et à l'ennui surtout.
Alors, en fait, il y a déjà certainement une raison tout à fait factuelle qui est que pendant l'hiver 43-44, il y a relativement peu d'opérations que doivent gérer ce petit groupe de la section atterrissage parachutage, tout simplement parce que c'est l'hiver, et puis parce que les terrains d'aviation qui recevaient donc les colis venus d'Angleterre n'étaient pas tous en fonctionnement tout de suite. Donc il y a eu une période pendant laquelle ce petit groupe de maquisards a dû attendre. Et c'était pour Char aussi un défi que de réussir à maintenir la vigilance, l'engagement, la concentration dans une situation de danger, alors qu'il n'y avait pas d'acte à faire dans les médias. Donc il y a cela. Il y a eu véritablement un ennui pendant quelques mois. Et puis il y a aussi certainement dans cette allusion au dimanche une déception et une ironie à l'égard du temps religieux. Le dimanche, c'est le temps de la religion. Et il y a dans ces feuillets toute une réflexion sur ce temps sacré qui est tout à fait dissocié de ce que Char appelle les compromis religieux. Char vient du surréalisme a écrit des pamphlets contre la religion et contre le clergé. Ce qui apparaît dans Feuillet d'hypnose, c'est aussi une fin, il appelle comme ça, et qu'il discerne chez ses compagnons, une fin métaphysique, un appel qui n'est pas satisfait. Il y a une déception à l'égard de ce que pourrait dire une parole religieuse qui ne donne pas, qui ne remplit pas la faim de ces jeunes gens. Et donc il y a là certainement voilà, une pointe ironique face à cette absence et cette, cette déficience du discours religieux, alors qu'on est dans un moment où le sacré compte, où il s'agit de fonder un temps nouveau et de nommer un temps à part, qui est le temps du combat.
Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. Imagination, mon enfant. La mémoire est sans action sur le souvenir. Le souvenir est sans force contre la mémoire. Le bonheur ne monte plus. Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri.
Dans le plus petit comme dans le plus grand bonheur, il y a quelque chose qui fait que le bonheur est un bonheur. La possibilité d'oublier. Ou pour le dire en termes plus savants, la faculté de sentir les choses aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute perspective historique. L'homme qui est incapable de s'asseoir au seuil de l'instant, en oubliant tous les événements du passé, celui qui ne peut pas, sans vertige et sans peur, se dresser un instant tout debout comme une victoire, ne saura jamais ce qu'est un bonheur. Et, ce qui est pire, il ne fera jamais rien pour donner du bonheur aux autres. Imaginez l'exemple extrême, un homme qui serait incapable de ne rien oublier et qui serait condamné à ne voir partout qu'un devenir. Celui-là ne croirait pas à sa propre existence, il ne croirait plus en soi. Il verrait tout se dissoudre en une infinité de points mouvants et finirait par se perdre dans ce torrent du devenir. Toute action exige l'oubli, comme la vie des êtres organiques exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Il est possible de vivre presque sans souvenir et de vivre heureux, comme le démontre l'animal, mais il est encore impossible de vivre sans oubli. Il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique, qui nuit au vivant et qui finit par le détruire, qu'il s'agisse d'un homme, d'un peuple ou d'une civilisation.
Au feuillet 102 des feuillets d'hypnose, alors Michel, René Char dit ceci, on l'a entendu le dire lui-même, la mémoire est sans action sur le souvenir est sans force contre la mémoire, le bonheur ne monte plus. Et à ce feuillet fait écho le texte de Nietzsche que j'ai lu là, dans les considérations inactuelles, qui date lui de 1874, texte magnifique et très intéressant à entendre en ce moment puisqu'il loue les vertus de l'oubli. L'homme heureux se doit d'oublier.
En effet, c'est un texte tout à fait capital pour Char lui-même, qui était un grand Nietzschéen, un grand lecteur de Nietzsche depuis le début. En particulier, non seulement des considérations inactuelles, mais aussi des textes sur Héraclite. Et donc, la notion de devenir est une notion tout à fait active dans l'écriture poétique de Char dès le début, dès ses textes surréalistes. Et c'est vraiment intéressant de proposer de confronter ce texte de Nietzsche et la notion de devenir au feuillet d'hypnose, parce que les feuillets d'hypnose, c'est justement comme un moment où cette critique de l'histoire qu'on entend dans les considérations inactuelles et de la mémoire, finalement se voit remise en cause par la situation elle-même qui, parce qu'il faut agir, suppose un temps historique. C'est un moment de l'écriture de Char, finalement peut-être moins nietzschéen de ce point de vue-là, parce qu'il faut poser un temps linéaire, un temps orienté, un temps où s'enchaînent les causes et les conséquences pour donner la possibilité de renverser, de sortir de cette situation-là. Et c'est pour Char, ça fait problème. C'est-à-dire que il a lui-même conscience de tout ce que cela implique, d'impossible deuil, de nostalgie, de rapport, un passé qui n'est pas libre. Et c'est là encore, pour en revenir à Roger Bernard, exactement ce qui se passe dans le feuillet. Où il évoque son assassinat sur la route en revenant de ses restes, où finalement c'est un texte qui rend hommage à ce combattant dans une relation à ce passé, à cette mémoire qui dit un deuil impossible. Et c'est seulement après-guerre, au moment du poème pulvérisé, donc écrit en 1946, et qui fera partie de Fureur et Mystère, publié en 1948, c'est seulement après que Char retrouve la voix de Nietzsche dans l'écriture et la réécriture, on le voit ça sur les brouillons manuscrits, du poème pulvérisé, où il fait appel à des images et à des symboles et à des valeurs nietzschéennes pour briser ce qui a été un temps, un rapport grevé de nostalgie avec le passé. Mais justement parce qu'il s'agit de sortir du temps de l'histoire après-guerre. Temps de l'histoire par rapport auquel il a connu des déceptions, hein, puisque on le disait, après-guerre, il s'est avéré que la possibilité de sortir du mal et de le renverser se révèle impossible. D'où un retour à une autre forme de temps, un temps cyclique, qui lui retrouve en effet la pensée nietzschéenne.
Le feuillet auquel vous faites allusion sur la mort de Roger Bernard, c'est le feuillet 138 hein, qui dit ceci « Horrible journée, j'ai assisté, distant de quelques 100 mètres, à l'exécution de B. Je n'avais qu'apprécié la détente du fusil mitrailleur et il pourrait être sauvé. Il est tombé comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux et si léger il m'a semblé que le moindre souffle de vent eût dû le soulever de la terre. Je n'ai pas donné le signal parce que le village devait être épargné à tout prix. Mais qu'est-ce qu'un village? Un village pareil à un autre. Peut-être l'a-t-il su, lui, à cet ultime instant ?» Et cette description fait écho directement au feuillet 104 qu'on a entendu interprété par René Char lui-même, où il dit « les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri ». C'est exactement ce qui se passe.
En effet, c'est un moment de silence, un moment de mutisme, un moment où le poète ne peut plus parler. C'est aussi bien sûr un moment de paroxysme et d'intensité, pas seulement dans le combat, mais dans le sens du combat du résistant. Il est question ici du sacrifice. C'est un texte qui réfléchit, qui est dans l'ordre des moyens et des fins. Et l'ordre des moyens et des fins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on paye pour obtenir quelque chose, l'ordre des moyens et des fins, c'est celui de l'action. Et c'est celui du temps de l'histoire. Et c'est de cet ordre des moyens et des fins que veut sortir Char après-guerre, notamment dans un texte où il reparle de Roger Bernard, Affre, détonation, silence, dans lequel, un très beau poème en prose, dans lequel cette forme de narration qu'on entend dans le titre, Affre, l'angoisse, détonation, le coup de feu, donc la mise à mort par les SS, et silence, le silence qui suit, cette forme de narration chronologique est tout à fait contredite par le poème lui-même, qui parle au contraire du souvenir de Roger Bernard disséminé dans la poussière d'un paysage. Et on voit bien combien le paysage et la nature font la contre-terreur, et à quel point la poussière, dans cette écriture poétique, devient une spatialisation de la mort et de la finitude. Et dans cette spatialisation de la finitude se lie la chance d'un renouveau, et donc d'un rapport à cette mort qui ne soit pas nostalgique.
Le moulin du Calavou. Deux années durant, une ferme de cigales, un château de Martinet. Ici, tout parlait torrent, tantôt par le rire, tantôt par les poings de la jeunesse. Aujourd'hui, le vieux réfractaire faiblit au milieu de ses pierres, la plupart mortes de gel, de solitude et de chaleur. À leur tour, les présages se sont assoupis dans le silence des fleurs. Roger Bernard. L'horizon des monstres était trop proche de sa terre. Ne cherchez pas dans la montagne, mais si à quelques kilomètres de là, dans les gorges d'Opdette, vous rencontrez la foudre au visage d'écolier, allez à elle, oh allez à elle, et souriez-lui, car elle doit avoir faim, faim d'amitié.
Les fleurs, les jardins, les jets d'eau, les sourires, et la douceur de vivre. Un homme est là par terre, il baigne dans son sang. Les souvenirs, les fleurs, les jets d'eau, les jardins, les rêves enfantins. Un homme est là par terre, comme un paquet sanglant. Les fleurs, les jets d'eau, les jardins, les souvenirs et la douceur de vivre. Un homme est là par terre, comme un enfant dormant.
Merci à vous, Laure Michel, d'être venue nous parler de René Char aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est un plaisir d'en discuter avec vous. Je renvoie les auditeurs à votre livre René Char, le poème et l'histoire, 1930-1950, aux éditions Honoré Champion. Et puis aussi, on peut lire quelques articles, notices de vous dans le dictionnaire René Char, paru cette année aux éditions Classique Garnier.